du pouvoir et de l'intelligence. Il y a quelques lignes très édifiantes où vous racontez comment, en 1950, un grand patron dans un hôpital anglais s'est rendu compte que quand il faisait la tournée des malades et qu'il était accompagné de ses internes, le diagnostic porté par l'ensemble de ce petit système humain, c'est-à-dire le grand patron et ses élèves, était plus performant que quand il y avait le grand patron tout seul.
C'est très intéressant que vous citiez cela, parce que, vous savez, notre système d'école publique dans le monde a commencé ici, en France. Les gens en Amérique ne s'en rendent pas compte, mais ce sont les Français qui ont créé le premier prototype de l'école publique centralisée au 19e siècle. Et c'était basé sur le modèle de l'usine. Vous savez, la classe de l'école, c'est comme une petite usine. L'autorité est centralisée, elle va du haut vers le bas. Le maître, c'est l'autorité. Les élèves sont là. Et leur boulot, c'est de devenir efficace et productif pour devenir une force de travail pour la révolution industrielle. Aujourd'hui, cette idée d'enseignement centralisé et de l'autorité qui vient du haut vers le bas, se heurte à la façon dont une jeune génération apprend grâce à l'Internet. Sur l'Internet, chaque individu est responsable de son propre savoir, mais il partage de façon collaborative, il partage l'information, il partage le savoir sur les webs sociaux, de Wikipédia à Facebook. Donc on a une génération sur l'Internet qui apprend son savoir, non pas seulement par quelque chose que vous contrôlez au dépens de quelque chose d'autre, mais le savoir est quelque chose que vous partagez avec les autres et vous le distribuez de façon collaborative. Donc lorsqu'ils vont à l'école, ça les déconnecte complètement parce que l'école représente le type d'enseignement qui était indiqué pour la première et la seconde révolution industrielle sur une énergie centralisée, sur des communications centralisées. Donc il faut changer le système scolaire et il faut passer, ce dont je parle dans le livre, vers une éducation distribuée où les jeunes prennent la main aussi sur le système éducatif, où ils s'enseignent les uns les autres.
Est-ce qu'on pourra s'inspirer de ce qui apparaît comme étant un modèle, je veux dire du modèle finlandais ?
Oui,
le système finlandais est très intéressant parce qu'il est contre-intuitif. Nous pensons toujours que les étudiants ont trop de temps et qu'il faut créer, il faut leur, vous savez, empiler plus et plus encore de savoir dans ces classes fermées. Mais les Finlandais le font de façon différente. Tous les 45 minutes, il y a une pause de 15 minutes où ils sortent. Et on ne fait que jouer. Il y a une récré. Et finalement, ils en apprennent plus dehors que dedans. Parce qu'ils pensent qu'il faut ouvrir les portes de la classe. Nous faisons connaître aux jeunes la biosphère, ce qu'il y a, leur relation à la lumière. Donc ils passent beaucoup de temps avec des jeunes, en leur donnant du temps libre, et aussi du temps pour explorer l'environnement dans lequel ils vivent. Et le système scolaire finlandais est dans les trois premiers, par tous les critères que vous voulez, les trois premiers au monde. C'est le pouvoir latéral, c'est l'éducation qui commet, qui engage les jeunes dans leurs responsabilités en tant que gardien de leurs semblables. Et véritablement, la transformation qui se produit dans le système éducationnel aussi, ici, les jeunes commencent à développer une conscience de la biosphère. Ils commencent à se rendre compte que chaque chose que nous faisons en tant qu'être humain a une empreinte écologique qui affecte le comportement d'autres êtres vivants, non seulement humains, mais animaux aussi. Donc un jeune rentre à la maison, si vous êtes à Paris, en France, et dit à ses parents, « Mais pourquoi est-ce que la télé est allumée alors qu'on ne l'utilise pas, qu'on ne la regarde pas ? Pourquoi est-ce qu'on a deux voitures alors qu'on pourrait partager les voitures ? On pourrait faire du covoiturage. D'où vient ce hamburger sur mon assiette ? Est-ce que ça vient d'une forêt pluviale ? Est-ce qu'ils ont dû détruire la forêt pour faire des terres fertiles pour faire avoir des vaches qui vont vivre sur ce terrain ? La canopée, qu'est-ce qui en est arrivé de cette canopée ? Et lorsque les arbres sont détruits, ils n'absorbent plus le gaz carbonique. des productions industrielles de carbone. Et quand ça se produit, la température de la Terre augmente. Et les fermiers à 10 000 km de là, eh bien, eux, ils doivent faire face à des inondations et ils ne peuvent plus donner à nourrir à leurs enfants. Tout ça parce que la canopée a été détruite. C'est un des exemples parmi les milliers où les jeunes se rendent compte que chaque chose que nous faisons en tant qu'espèce a une empreinte écologique et affecte toute la planète. Ça, c'est la conscience biosphérique. Mais le reste du système éducatif doit être repensé pour comprendre que la première responsabilité de l'enseignement est d'enseigner sur nos relations dans la grande communauté que nous constituons tous, la biosphère. C'est essentiel pour la troisième révolution industrielle.